écoutez le programme de Studio Kalangou. Il est 17h. Le journal en français, c'est dans une présentation de Nafis Adam Sirfou. Au sommaire, le Niger a accueilli ce 25 novembre un double sommet des chefs d'État africains sur l'industrialisation du continent et la Zilecaf. Le président du Niger, Bazoum Mohamed, dans son discours, est revenu sur la nécessité d'aller vers l'industrialisation du continent. De nouveaux ossements de dinosaures ont été découverts récemment à Adderbisnet, région d'Agadez, par une équipe de paléontologues internationaux. Un membre de l'équipe est à suivre dans ce journal. Dans le magazine de cette édition, nous verrons l'importance de la communication dans le renforcement de la bonne résilience d'une population, cas de la commune de Kouré. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Niger accueille ce 25 novembre un double sommet des chefs d'État africains sur l'industrialisation du continent et celui de la Zilecaf. Le président du Niger, dans un discours, a insisté sur le fait d'aller vers l'industrialisation du continent par étapes. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, sur des propos recueillis par Télé Sahel.
Nous devons donc piloter le processus d'industrialisation en adoptant une stratégie robuste en ce qui concerne les étapes. Nous devons prendre en considération le fait que nous devons enthousiasmer une jeune population dont l'âge médian actuel est de moins de 20 ans. Nous devons être particulièrement prudents dans les options de notre industrialisation et veiller à utiliser nos ressources de façon efficiente. Au-delà des grandes lignes définies par les objectifs, il nous faut définir des priorités pertinentes qui vont servir de socle solide à l'industrialisation. L'industrialisation et le commerce ont besoin d'une population dynamique, en bonne santé, d'où il découle que nos priorités sont l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'énergie, les transports, les communications, la santé et l'éducation, et bien sûr, les nouvelles technologies de l'information. À cet effet, il faut tirer le maximum de nos ressources non renouvelables, notamment énergétiques, pour amorcer le moteur de l'industrialisation.
De 1997 à nos jours, plusieurs squelettes de dinosaures ont été découverts dans la région d'Agadez par une équipe de paléontologues dirigée par professeur Paul Sireno, un chercheur américain. De nouveaux ossements ont été découverts à Adderbisnet récemment. Ils seront conservés dans deux musées à Niamey et à Agadez, dont leurs constructions sont prévues d'ici 2026, a expliqué Alexandra Dermès, membre de l'équipe de recherche du professeur Paul Sireno. Il est au micro de Moussa Maman.
À l'ouest d'Agadez, dans la plaine d'Irazer, on a découvert des tas de gros dinosaures à long cou qui pouvaient peser plusieurs dizaines de tonnes. La diversité de dinosaures, en bref, dans la région d'Agadez, elle est déjà immense et on commence à peine à la découvrir, même après une douzaine, voire une quinzaine d'expéditions dans la région. On n'a pas l'animal au complet devant nous, on a juste des os. Et tous ces ossements-là, ils appartiennent au Niger. Ils sont conservés dans deux musées. Et la construction est planifiée en ce moment. Le musée du fleuve à Niamey et aussi le musée du désert vivant à Agadez. Et donc, on va s'assurer que les dinosaures qui ont été trouvés le plus près possible d'Agadez soient au musée du désert vivant à Agadez. Pour ça, il y aura un espace où les gens pourront visiter le musée, voir une réplique du squelette. Les os originaux vont être entreposés dans une autre section de ce même musée. Et donc, les os originaux vont être aussi à Agadez. J'espère que les deux musées, celui de Niamey et d'Agadez, soient construit d'ici 4 ans. On espère qu'il y aura plusieurs retombées économiques provenant du tourisme.
Par contre, les autorités municipales d'Adderbisnet se disent préoccupées de ne pas être informées du passage des équipes de recherche des ossements de dinosaures dans leur localité. Le maire Al-Hussein Ibahni indique que sa commune doit être associée dans les recherches fossiles sur son sol. Il est interrogé par Moussa Maman.
Hier, là, ils sont venus avec les chargements 2 à 3 camions de ce dinosaure-là, sans même nous appeler pour nous dire. Ils sont directement allés dans le site faire leur prélèvement. Soi-disant, ils vont créer un musée à Agadez. Notre commune, là, pas pris en compte. Quand on vient ramasser ces richesses-là, qu'on soit informé, associé à tout, quoi. Et puis, on revendique vraiment que pour même les recettes que cela va régénérer, qu'il y ait partage prenant en compte notre commune. Ça commence depuis 1997. Nos dinosaures-là sont allés jusqu'à Chicago. Ils nous ont dit qu'ils les ont ramenés avec l'arrivée du président du conseil régional et le sultan de l'Aïr. Ils les ont ramenés à Niamey. Et ils continuent chaque fois qu'ils viennent prendre ces dinosaures-là. Sans même nous informer. C'est un bien de la commune. C'est notre richesse. C'est la seule qu'on a. Et elle est là pour nos petits-enfants.
Hors de chez nous, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueille depuis mardi la 7e Assemblée générale mondiale de la campagne mondiale pour l'éducation. La rencontre, qui a pour thème réimaginer le futur de l'éducation, vise à mettre fin à la crise mondiale de l'éducation, explique le président d'ASOEPT Niger, Al-Mustapha Moussaïdé. Il est joué au téléphone par Mokhtar Hamadou.
La campagne mondiale pour l'éducation est un mouvement de la société civile qui vise à mettre fin à la crise mondiale de l'éducation. Notre mission est de nous assurer que les gouvernements agissent pour réaliser le droit à une éducation publique, gratuite et de qualité pour tous. Le thème de cette 7e Assemblée générale de la campagne mondiale pour l'éducation, c'est réimaginer le futur de l'éducation. En dehors de ce thème, nous allons débattre d'un grand nombre de questions liées à l'éducation universelle. Cette rencontre va aussi déterminer les axes majeurs de la campagne pour les années à venir. Je dois vous rappeler que, en tout cas, tous les membres de plein droit participent à cette 7e Assemblée générale.
Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces assises de cette Assemblée générale.
Retour ici au Niger où le centre de santé intégré de Yelou, situé dans le département de Gaya, administre des soins à plus de 24 000 habitants. Selon la responsable du CSI, malgré sa position géographique dans une zone humide et forestière où chaque année la pluviométrie est assez abondante, le CSI n'a pas connu cette année des cas importants du paludisme. Docteur Amin Hamidou, responsable du CSI de Yelou, est joué au téléphone par Gungu Mohamed Dantani.
Avec la saison pluvieuse qui vient de passer, on s'attend au cas de paludisme qui devrait être multiplié, mais depuis tous ces temps de période paludique, on n'a pas vu ça. Il y a des maladies infectieuses ou même des spécialités comme ophtalmologie, santé mentale, autres spécialités qui nous viennent en consultation. Au niveau des enfants, c'est surtout la malnutrition aiguë sévère, la malnutrition modérée. Il y a quelques cas de paludisme qui nous viennent. C'est pas beaucoup, mais quand même, c'est des paludismes simples qu'on arrive à gérer à notre niveau. Si c'est grave, on réfère au niveau du district. Par exemple, s'il y a une anémie associée, c'est en ce moment qu'on réfère au niveau du district et ils ont le plateau technique suffisant pour prendre en charge cette anémie parce que là-bas, un laboratoire, une banque de sang disponible, même si des fois, c'est difficile d'avoir le sang.
Restons toujours dans le département de Gaya où les membres du cadre de concertation des femmes du département ont achevé mardi une tournée de restitution des acquis d'une formation reçue sur le leadership féminin, la sécurité et le plaidoyer. C'était l'occasion d'expliquer aux autres femmes de la ville de Gaya les acquis de la formation reçue. Quelques femmes du cadre de concertation des femmes s'expriment au micro de Fadel Alou.
On a jugé rassembler les femmes. D'abord que la femme sache que c'est quoi une femme leader. Une femme leader, c'est une femme qui doit se mettre au devant des autres femmes. Une femme qui est à l'écoute. Une femme compréhensible. Une femme patiente. Une femme vraiment qui est de bonne foi. Partout, il y a 25 quartiers dans la commune de Gaya. On a sillonné les 25 quartiers, alhamdulillah. Et partout, on est parti les rencontrer. C'est toujours le même slogan. La femme leader et le plaidoyer. Donc, étant une femme leader, en cas de nécessité, c'est cette femme qui doit se mettre au devant de l'autorité compétente, communale d'abord, donc elle va plaidoyer.
Vraiment que ces femmes-là prennent leur disposition pour lutter contre vraiment l'insécurité de tous les côtés.
Un atelier a été organisé hier jeudi 24 novembre à Tchirozérine sur le renforcement de la sécurité entre la société civile, les forces de défense et les chefs des villages. Cela pour créer une confiance entre acteurs afin de ramener une sécurité durable dans le département. Daouda Medaji, représentant de la société civile de Tchirozérine, est au micro de Ahmed Félan.
La réunion qui s'est tenue ici à la mairie, c'est la situation qui prévaut dans le département de Tchirozérine relativement à la question de la sécurité et de la cohésion sociale. Nous avons parlé sur la sécurité et nous avons dit que la sécurité est une affaire de tous. Et concernant les coupeurs de route et autres banditismes auxquels s'adonnent les jeunes, eh bien c'est la conséquence du manque d'emploi. Nous avons attiré l'attention des autorités. Nous soutenons les jeunes de la région d'Agadez par rapport aux différentes déclarations dans lesquelles ils demandent des emplois dans cette société. Actuellement, il y a une sorte de tension qui sévit au niveau de Gaza. Si vraiment l'autorité veut qu'il y ait la paix, nous avons dit aux autorités de tout faire pour que tous ces jeunes qui ont un diplôme soient embauchés dans cette société.
La réhabilitation de la route embranchement Kaou-Tchentabraden, distante de 82 km, est une bouffée d'oxygène pour les usagers. Sa dégradation a impacté la commune de Kaou, mais le début des travaux de réhabilitation va booster l'économie. Ahmed Abdoulaye Gousmane, maire de la commune rurale de Kaou, est au micro de Alamine Ouachar.
La route qui quitte Mararabakao et qui va à Tchenta, qui est communément appelée la RN25, est une route très dégradée. Surtout qu'elle est implantée par les gros camions qui quittent l'Algérie. Il y a à peu près 150 à 200 camions chaque mois qui viennent la traverser. Elle était dans un état très critique. Mais avec la volonté politique au niveau central, l'État a décidé de la réhabiliter. Les marchés ne tiennent pas. Mais avec le bâtiment de cette route-là, tous les véhicules sont revenus maintenant sur la route Kaou-Tchentabraden. Ces va-et-vient-là provoquent un commerce au bord de la voie et les marchés sont en train de reprendre leur enthousiasme qu'ils ont perdu il y a longtemps. Nous tenons à remercier l'État pour tous les efforts qu'il fait pour que cette route soit réhabilitée et de la bitumer. Le marché a été donné à MBC, tronçon Tawa Abalak et le tronçon Mararabakao-Tchenta. Les travaux ont commencé. Ce n'est pas encore bitumé, mais avec les déviations, avec les trous qui sont maintenant remblés, les transporteurs ont commencé à passer par la route des Kaou. À un certain moment, vu son état très dégradé, tous les véhicules qui coûtaient Tchenta passaient par les rentes chez Bichetène pour aller à Taïtarka et rejoindre Tawa.
La date de la libération des champs de la région de Maradi est fixée pour le 31 décembre prochain. Seulement dans le département de Dakoro, certains éleveurs sont revenus du nord avec leur bétail. Une situation qui peut être potentiellement explosive selon le maire de Dakoro. Daouda Mahamana est au micro de Adam Oumarou.
Par rapport à cette problématique d'introduction des animaux dans les champs avant la récolte, nous l'avons observé de visu. Ici à Imbori, un cultivateur a été fléché. Heureusement, il est sorti indemne. À Zougaou, un autre a été blessé au nord vers Guidandada. La situation allait dégénérer. Fort heureusement, les tensions se sont apaisées. À cela, notre seule prière, qu'Allah nous préserve. Et d'ailleurs, voyez-vous, la zone de Dakoro, les semis se font en retard et même si les semis du mil sont faits, on ne peut pas faire les semis du sorgho ni du niébé au moment opportun, tout comme l'arachide d'ailleurs. Et cela de peur que les animaux ne s'introduisent pour tout ravager.
Le magazine de ce journal, la résilience et la capacité des populations d'une communauté à s'adapter au changement, de disposer d'un capital physique et social et de connaissances techniques suffisantes pour être capable d'innover et de réagir de manière flexible en cas de choc. Pour renforcer la bonne résilience de sa population, la maire de Kouré estime que la communication reste le moyen le plus important. Madame Bourem Khadija est au micro de Refika Taher.
Comment se présente la gestion de la mairie?
La gestion de la mairie, il y a d'abord le code des collectivités territoriales qui explique tout, le rôle du maire, des conseillers, des leaders, de la chefferie, tout est dit dans le code des collectivités territoriales et c'est avec ça on travaille. Le maire, c'est l'organe exécutif, donc c'est le maire, son adjoint et le SIG. Maintenant, il y a l'organe délibérant, qui est constitué du conseil. Et dans le conseil, il y a les conseillers communaux, il y a les membres de droit aussi qui sont la chefferie et les députés nationaux de la commune. Ensuite, il y a les leaders, il y a les leaders religieux qui ont leur mot à dire eux aussi, qui sensibilisent la population, les informent, les sensibilisent.
Comment vous faites pour accompagner le travail des leaders de votre localité?
Et en tout cas, avec ces leaders-là, nous sommes toujours ensemble parce que chaque fois qu'on a un partenaire, surtout Jagorenchi, on demande le renforcement des capacités pour ces leaders-là. Ensemble avec eux, on suit et on crée les conditions pour qu'ils transmettent cette formation qu'ils ont eue pour qu'ils la transforment aux autres qui ne sont pas venus. Et on les responsabilise souvent dans des actions. Si on voit que ça traîne vraiment avec leur structure, on les responsabilise.
Quelles sont les principales actions pour une bonne résilience des populations de la commune?
D'abord, c'est la communication, moi je me dis. La redevabilité, là, il faut rendre compte à la population pour gagner leur confiance. Et dès lors que vous avez cette confiance-là, il n'y a plus de problème. Chacun s'engage pour faire le travail.
Fin de ce journal. Merci de votre attention.